sur Blueprint.
Salut à tous et bienvenue dans La Cartouche, le podcast du jeu vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Lou Lassina-Foubert, auteur chez Third Editions et social media manager chez West France. Et toi, c'est Yann Rieder, tu travailles entre autres pour Game Cult et Red Bull Games. Hello Yann, how are you?
Je suis super mort à West France. C'est un Texan qui vous a racheté, c'est News Corp, qu'est-ce qui se passe?
C'est Nelson Montfort qui te parle aujourd'hui. Comment ça va?
Incroyable, je suis aujourd'hui avec le patineur artistique Lou Lassina-Foubert dans Monsieur Foubert 2000. Quand vous avez atteint le meilleur score, when you reach the higher score, what did you think of how you buy your games? Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous achetez vos jeux exactement?
Donc, quelle transition. Mais je note que tu me colles du coup un sport de PD. Donc on parle aujourd'hui effectivement de... Oh, j'ai le droit.
Non, excusez-moi. Je déraille ta présentation pour dire qu'il a commenté le patinage artistique pendant des années avec Candeloro. Et oui, quand on me parle de Nelson Montfort, je pense au patinage artistique. Ça n'a rien à voir avec ton orientation sexuelle.
Oh, mais c'est juste une vanne. Mais d'ailleurs, je trouve ça très très drôle que
Zut.
Quand même quand... Candeloro qui, je le trouve, enfin j'aime beaucoup ce monsieur, je le trouve un peu beauf quand même.
Et c'est il est très très beauf.
Voilà, bon, je te laisse le dire, mais c'est marrant.
Il a fait des déclarations, comme beaucoup de commentateurs sportifs, il a fait des déclarations très très beauf, voire parfois même un peu sur les bords, mais...
Un peu limite, mais du coup c'est moi qui fasse du patinage artistique du coup, enfin tu vois c'est... Et oui, donc bienvenue dans votre podcast La Cartouche qui parle du patinage artistique.
Patinage artistique et jeux vidéo.
Exactement. Voilà. Tout un concept. On va parler aujourd'hui de la façon dont on obtient, on achète nos jeux, on consomme nos jeux, enfin comment on va les récupérer. Déjà, première question mon cher Yann, est-ce que tu es plutôt démat ou physical?
Alors, l'énorme collection qui se situe derrière moi avec plusieurs centaines de jeux en boîte témoigne du fait que je n'ai rien contre le physique. Globalement, pour moi...
Tu es superficiel, tu aimes le physique.
Exact. Évidemment, j'ai pas le choix dans certains cas. Je ne réagirai pas. Il y a certains jeux que je ne peux pas faire autrement d'acheter en dématérialisé ou qui sortent mon premier en dématérialisé. Si je les veux, eh ben je les prends de cette manière-là. Donc physique, sauf dans le cas de ce que j'appellerais des jeux pointillistes. Qu'est-ce que j'entends par jeu pointilliste? Eh ben c'est des jeux auquel on joue par petites touches. Des jeux comme le programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima, des jeux comme Animal Crossing. Alors pour l'instant, j'en ai assez peu de ces jeux-là, importants pourtant que j'aime beaucoup et que j'aimerais continuer à collectionner sous forme de boîte, du coup acheter sous forme dématérialisée. Mais je suis de plus en plus tenté, ça m'est arrivé une ou deux fois, et je dois dire que, par exemple, Animal Crossing New Horizons, qui va sortir au mois de mars sur Switch, je suis très tenté de l'avoir en dématérialisé. De même, le marché du jeu PC s'est dématérialisé du feu de Dieu ces 15-20 dernières années, grâce notamment à Steam, mais aussi à tous les éditeurs et leurs petits frères qui ont lancé des launchers. Donc, on s'est retrouvé là, pour le coup, un petit peu contraint à avoir du dématérialisé. Donc, d'une part, la montée du jeu indépendant, d'autre part, l'arrivée des launchers, des plateformes, ont fait que, même si ma priorité est vers le jeu physique, j'ai également une collection de jeux dématérialisés assez large. Ce qui fait qu'au total, je pense qu'un jeu sur deux, voire même deux jeux sur cinq, est dans ma collection en physique, de par simplement la recrudescence de nombre de jeux qui sont exclusivement dématérialisés, ou en tout cas qui le sont pour une large, large durée après leur sortie. Et toi, Lou?
Alors, je suis un peu dans le même cas que toi, en fait, finalement. J'ai vraiment l'amour du physique, on peut le dire. Autant que faire se peut, je veux mes jeux en version physique. Ça, c'est indispensable. Sauf les jeux PC. C'est vraiment la seule exception. Vraiment, j'ai plus de jeux PC en boîte.
C'est pour te retrouver avec un code à l'intérieur, déjà, c'est un peu décevant.
En plus. Donc voilà. Donc vraiment, les jeux PC, c'est typiquement, ça va être sur Steam, hein, globalement. En revanche, les jeux Switch, par exemple, j'ai aucun jeu Switch en téléchargement s'il est disponible en physique. Typiquement, je fais tout en physique parce que j'aime bien avoir ma petite collection, comme ma petite collection de DVD. Hein, je continue à acheter des DVD pour mes séries, même pas des Blu-ray parce que vous savez, les Blu-ray, ça fait pas la même taille que les DVD. Du coup, c'est pas très joli dans la collection. Donc, je suis le genre de mec qui achète encore des DVD juste parce que pour que ça fasse plus joli.
Et donc, est-ce que ça veut dire que, comme dans le cas de Wargrove par exemple, tu as attendu que le jeu sorte en physique bien que il était disponible en dématérialisé bien avant?
Bah écoute, j'ai pas Wargroove, donc du coup, ça, ça répond. Mais
un exemple.
Ouais, non, mais je j'ai pas d'exemple en tête.
D'accord, donc ça s'est jamais posé pour toi.
Non, si, après, c'est une question d'attendre. Mm. Est-ce que je suis prêt à attendre, du coup, pour avoir la version en boîte? Oui, parce que je suis pas un acheteur, je suis globalement pas forcément un acheteur très compulsif. Enfin, si. Mais,
pas pour ça, pas pour ça.
Mais ouais, non, mais voilà, je suis compulsif pour les gros titres qui, de toute façon, sortent en boîte tout de suite. Donc,
Et pour les jeux que j'ai catégorisés comme pointillis, les titres comme Animal Crossing, les petits jeux online multi, type Rocket League, Overwatch, etc. Là, est-ce que tu privilégies un support physique ou est-ce que tu privilégies un support des maths?
Bah, Animal Crossing, ça va vraiment, vraiment être relou parce que c'est typiquement le jeu que tu lances tous les jours. Et, mais moi, je rêve d'une offre bundle avec, on vous offre la boîte et avec la cartouche
la
et un code dedans.
La possibilité d'installer le jeu concrètement et de pouvoir le démarrer tel quel, même si elle va contre justement les DRM et les protections qui ont été mises en place aujourd'hui contre le piratage et ce qui est considéré comme une forme de partage abusif de jeux dans son cercle familial. Ce serait confortable pour le coup.
Mais rendez-moi le projet Xbox One de base. Rendez-moi ce projet où tu achetais tes jeux, où tu les installais sur la console et t'avais plus besoin de les. C'est moi, c'est ça dont je rêve. S'il faut quelque chose, tu vois.
Ça venait avec d'autres choses qui étaient moins positives, mais oui.
Oui, mais moi c'est ça. Moi, c'est vraiment, je trouve que ce serait bien. Ou une offre bundle, du coup, qui fait que tu débloquerais aussi le jeu sur un marché finalement et tu permettrais de pouvoir jouer sans la cartouche, mais laissez-moi ma boîte. Donc oui, c'est un peu, c'est je vois que c'est débile, hein. Je veux la boîte juste pour la boîte, donc je ferais mieux de acheter la boîte d'occasion éventuellement auprès de quelqu'un qui veut juste garder la cartouche finalement et acheter le jeu en téléchargement, mais non, je veux pouvoir avoir ma petite collection jolie.
Bien. Oui,
du coup, comme t'as ce besoin finalement aussi de boîte comme moi, est-ce que tu vas beaucoup en magasin finalement pour aller les chercher? Est-ce que c'est un besoin physique aussi au niveau de l'achat ou est-ce que ça passe plus par le virtuel avec des commandes en ligne?
Alors j'ai l'impression que ça va être un vrai clash France-Suisse pour les gens qui ne le savent pas. Toi, tu vis en France dans une grande ville française et moi je vis en Suisse romande, donc en Suisse francophone, proche de la France mais trop loin malheureusement de l'Hexagone pour bénéficier notamment d'Amazon France dans toute sa plénitude. Faut savoir qu'on a quelques services de livraison, certaines boutiques qui le font, mais au final, ça a tendance à être plus efficace et peu limitant d'aller chercher son jeu en boutique. Parfois même, d'ailleurs, tu le sais, les auditeurs de la cartouche fidèle depuis plusieurs années le savent. Grâce à ça, ils ont tendance à tomber un ou deux jours avant la date de sortie normale, parfois même encore un peu plus tôt. Donc ça a ce genre-là de bénéfice. J'ai pas non plus à faire face mon avis, le livreur qui parfois vient et parfois ne vient pas, parfois lève un avis de passage et me fait poireauter 2 à 3 jours de plus. Évidemment, si on est sur des sorties le vendredi, ça signifie attendre lundi, mardi, ce qui n'est pas idéal, surtout quand je fais face à une deadline pour écrire un papier ou ce genre de choses. Donc non, c'est pas cool. C'est pour ça que je vais généralement chercher en magasin. Parfois même, d'ailleurs, je fais plusieurs magasins quand j'essaie d'en trouver un avant sa date officielle, mais ça, c'est mes lubies personnelles. Et puis, je dis aussi, hein, quand on commande en Suisse, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas un grand avantage, même pas du tout d'avantage au niveau pécunier, de commander en ligne vis-à-vis d'acheter en magasin. Et je sais que la situation est différente en France, à la fois à la sortie du jeu et surtout quelques semaines, quelques mois après la sortie du jeu, si on le commande en ligne en France, j'ai l'impression qu'on peut l'avoir pour beaucoup moins cher.
Ah oh oui. Alors d'abord, je me permets, je te renvoie à l'épisode je ne sais pas combien de ta gueule pécuniaire.
Ah pardon, merci. Oui, radiokao.com/ta gueule, bien sûr, pécuniaire, très bien.
Ailleurs. Ouais, non.
Oui, j'oublie ça, c'est incroyable, effectivement.
C'est zinzin. Les boutiques. J'ai envie de dire Micromania. Pourquoi
ah non, mais ça m'indigne aussi, hein. Parfois je le visite quand je suis en France.
J'y vais dans les Micromania parce que des fois ils ont des exclusivités au niveau des cartes Pokémon en fait, donc je suis un peu obligé d'y aller et d'acheter chez eux. Mais le prix des jeux là, qu'est-ce que j'ai été voir la fois dernière, je me suis baladé, il y avait Luigi's Mansion avec 65€ barré. Waouh, 60€ le jeu Luigi, je suis sûr que sur Amazon je l'ai à 45€ max. Mais vraiment, tu vois, enfin du coup, je vais très très peu en magasin. Alors, il faut savoir, en revanche, si vous allez en magasin, la très bonne astuce, ce sont les magasins Leclerc. Les jeux vidéo dans les magasins Leclerc et les jouets, vraiment, hein, c'est des produits d'appel chez eux, et c'est littéralement bradé. Ils gagnent quasiment rien dessus. Du coup, c'est vendu à des prix vraiment défiant toute concurrence. Même les jouets chez Leclerc. Non, mais c'est vraiment impressionnant. Je collectionne les Playmobil, comme tu le sais, et tu fais des affaires de malade, avec des différences où tu passes d'un jouet qui vaut 30€ dans un magasin de jouets classique à 20 voire 15€ chez Leclerc. En prix normal, en prix de vente, alors, tu vois, donc c'est juste surréaliste.
Tu l'as dit tellement fois que je crois qu'ils ont droit à un jingle dédié pour les féliciter.
Les pauvres.
Attention.
Là.
Ah, merde, ça.
Leclerc.
Voilà. Non, mais qui. Et d'ailleurs, j'apprends comme ça que la personne qui fait cette voix, Leclerc, s'appelle Marilyn Hérault, apparemment.
Merci.
Qui est comédienne de doublage. Donc,
merci,
voilà.
Marilyn.
On n'est pas sponsorisé, mais Michel-Edouard, si tu as des deniers à dépenser pour qu'on continue à dire du bien de Leclerc, mais cette fois-ci payé par toi, dans des spots dédiés et pas évidemment dans l'éditorial, parce qu'on ne peut pas chez l'éditorial de la cartouche, ni nous qu'un autre podcast Blueprint, contacte-nous, bonjour@blueprint.pm. Vas-y, tu continues.
Mais voilà, non, je le dis vraiment parce que je l'ai constaté, donc voilà, donc c'est mon conseil finalement, mais sinon moi ça va être du Amazon parce que je suis client Prime et les prix sont très très bons, c'est livré chez moi, j'ai pas besoin de me déplacer parce que je me déplace peu, je j'ai pas le permis, donc si je veux aller dans des boutiques spécialisées, des centres commerciaux, forcément, bah, comme j'habite en centre-ville, les Leclerc c'est très loin, donc c'est compliqué, donc je vais pas bouger mon cul, clairement j'ai pas le temps, donc je préfère le recevoir dans ma boîte aux lettres plutôt que d'aller payer 70 balles au Micromania du coin, parce que vraiment, mais je ne comprends pas les gens qui achètent chez Micromania. Je vais finir mon coup de gueule là-dessus, parce que en gros on peut dire on te vend du conseil avec, mais c'est même pas le cas. On te vend une assurance en plus, une assurance qui généralement en plus ne sert à rien généralement. Enfin, je veux dire, prenez soin de vos jeux, vous avez pas besoin d'assurance. Et franchement, pour péter une cartouche Switch, faut y aller quand même. Ah, si vous rayez votre truc Xbox One, bah, si je raye, mais c'est bon, je fais pas du frisbee avec mes disques non plus. Donc, je veux dire, si vous avez un enfant, à la rigueur, mais je veux dire, je vais pas payer 2 balles pour faire ça. Et voilà, non vraiment, les Micromania, je ne comprends pas vraiment. Pourtant j'ai été un client, mais vraiment extrêmement fidèle de l'enseigne, vraiment. J'avais la méga carte gold et tout, mais mon premier achat c'était Banjo-Kazooie chez Micromania d'ailleurs.
Ah bah tiens.
on en a reparlé du coup
dans la cartouche rétro il y a une semaine
exactement. Et je m'en souviens très bien, c'était sur le retour des vacances, enfin bref, on va pas parler de ma life, mais voilà, Micromania caca pour finir.
Bien, écoute, ça résume ta pensée.
Est-ce que tu préfères acheter Day One ou est-ce que tu es plutôt patient finalement?
Non, alors comme je l'ai dit, hein, je suis pas très patient dans le sens où si c'est un jeu que j'attends, soit personnellement beaucoup, soit parce que j'ai besoin de le traiter et que je l'achète par mes deniers, c'est pas un review code. Dans ce cas-là, effectivement, j'y vais, je fonce. Ça me prend pas beaucoup de temps parce que je passe assez souvent devant ces boutiques-là, en tout cas devant une ou deux en tout cas. Donc ça prend pas beaucoup de temps dans ma journée d'aller vérifier si c'est disponible ou pas. Donc c'est un trade-off que je prends volontiers, voilà. Écoute, c'est un de mes loisirs principaux, donc c'est le genre de petit vice que je m'accorde là-dedans. Pour toi, là aussi, Day One, tu sautes dessus ou tu préfères attendre?
Bah écoute, je suis très rétro hein, maintenant comme joueur, donc du coup forcément quand tu joues rétro, bah t'es pas très Day One, hein, fatalement. Donc c'est plus complexe. Je choisis vraiment des jeux, des gros jeux que j'attends. Ça va être les Mario Odyssey, les Zelda, les Pokémon forcément. Enfin encore, pour Pokémon c'est différent parce que je fais le test. Donc en gros, les jeux Day One, ça va être les jeux que je teste. C'est-à-dire 10 jeux dans l'année, donc c'est pas non plus énormissime, hein, tu vois, c'est assez peu. Et sinon, ça va être plus occasionnel sur là où j'ai limite où j'ai un petit projet. On parlait de Temtem dans l'épisode précédent. Finalement, j'ai pris Temtem parce que je voulais faire un let's play sur ma chaîne avec Malison, du coup, un youtubeur. Mais sinon, je pense pas que je l'aurais acheté tout de suite. J'achète plutôt des jeux quand ils sont soldés, finalement. Donc, c'est plutôt rare, finalement, que j'achète des nouveaux jeux, même des gros jeux, et je les fais plutôt à rebours. Donc voilà, donc moi perso ça va plutôt être ça. Est-ce que moi je parlais des sols finalement, est-ce que toi t'as des astuces finalement, je sais pas.
Alors oui, déjà les trackers de prix, il en existe un petit peu partout pour plein de supports différents. Personnellement, je me dirige vers Dekudeals, dekudeals.com, Dekudeals. Pour tout ce qui concerne la Switch, c'est très très bien fichu parce qu'il vous présente à la fois vraiment les baisses de prix les plus populaires, ensuite les baisses de prix les plus récentes, les jeux qui attirent le plus la convoitise des joueurs, les jeux qui sortiront bientôt. Et vous pouvez notamment voir si la baisse de prix est la baisse de prix la plus importante historiquement ou si le jeu a déjà été plus soldé. Autrement dit, est-ce qu'il vaut mieux attendre pour une autre solde ? Attention à pas non plus passer votre vie là-dessus. Il y a vraiment moyen de devenir un petit peu parano des soldes. Enfin voilà, ça vaut le coup. Ça vous le marque d'ailleurs pour n'importe quel territoire. Vous pouvez checker les prix dans n'importe quel territoire de l'eShop Switch. Ça vaut pas mal le coup. Et puis des exemples comme ça, il en existe plein. Vous cherchez juste Price Tracker en anglais, suivi du nom de la console qui vous intéresse, nom de son e-shop qui vous intéresse, et vous trouvez ça assez facilement. Ensuite, voilà, sélectionnez-en un, fiez-vous à lui, et c'est parti. Donc ça, c'est pour le côté un peu solde. Pour le côté autres astuces, eh bien, regardez les bibliothèques municipales, puisque les frais d'abonnement sont généralement très très faibles, voire même dans certains cas complètement gratuits, suivant la ville dans laquelle vous vous trouvez. Et certaines, de plus en plus, proposent du jeu vidéo. Par exemple, dans mon cas, à Genève, la bibliothèque de la Cité propose des jeux Xbox One, PS4, Switch et 3DS, pour le coup, que vous pouvez louer à raison de 2 maximum, chacun pour une durée de 3 semaines, qui est de nouveau prolongeable pour 3 autres semaines. En-dessus de quoi, je crois que vous avez des pénalités pour rembourser le temps que vous l'avez emprunté de trop après cette double période. Mais c'est quand même bien pratique de pouvoir faire ça. Ça me permet, moi, de tester des jeux que j'aurais pas forcément dont il n'y a pas de démo. Là, par exemple, récemment, j'ai pris Astral Chain pour voir un petit peu de ce dont il était. Et effectivement, j'accroche pas des masses, donc je suis content de ne pas me l'avoir, pas me l'être acheté. Ça permet de prendre certaines décisions. Dans l'autre sens, par exemple, j'avais loué à une époque Dead Cells, et Dead Cells, j'apprécie beaucoup, donc j'ai fini par me le prendre en solde. Donc c'est bien pratique, que ce soit pour se faire un jeu en entier si on s'y concentre, ou simplement pour se faire une idée sur un jeu qui nous intéresse mais dont on n'est pas sûr de pouvoir ou de vouloir se le procurer. Toi, mon cher Lou, quel genre d'astuces tu as dans ta besace? Est-ce que tu revends tes jeux?
Déjà j'aime trop les objets pour les revendre. Je revends rien globalement, mais vraiment de toute ma vie je ne vends rien. Je donne à la rigueur des vêtements, mais alors je garde tout. C'est terrible. J'ai un problème avec ça. Même des enveloppes, tu vois, c'est dire.
J'ai une pile de vieux magazines dont je vais me débarrasser d'ailleurs.
Pareil, moi j'ai mes vieux magazines de jeux vidéo, par exemple, j'ai tout gardé. Et puis mes enveloppes, je les garde. Quand je reçois un courrier, ça me fait du papier pour noter, tu vois. Donc c'est.
Ah bah oui.
C'est mon côté. Je récupère tout. Alors mon astuce, les soldes déjà forcément, c'est d'attendre les soldes de Steam. Moi j'ai une capacité d'attente tellement tellement forte. J'arrive même à résister à des moins 80%, tu vois.
Wow.
C'est dire. Aujourd'hui, hein, parce que j'ai un backlog aussi qui est énorme, donc forcément j'ai un peu moins. Ouais. Un peu moins envie de cliquer, mais c'est vrai qu'au début, quand tu ouvres ton compte Steam, tu dis ouais, je veux ça. N'oubliez pas GOG aussi, hein. GOG, il y a vraiment de belles offres et ils ont un très beau catalogue, notamment au niveau du rétro. Mm-hmm. Et sinon, si comme moi vous aimez les jeux physiques, ce que je fais, c'est que je mets mes jeux dans mon panier Amazon, et puis après, une fois qu'ils sont dans mon panier, je les retire du panier pour les mettre de côté, et là tu peux voir les baisses de prix. Et tu les laisses de côté et tu vois, tu regardes de temps en temps, tu passes quand tu fais un achat finalement sur Amazon, tu dis tiens là j'ai ce truc là à acheter, ce robot pour la cuisine, je regarde les jeux à côté, est-ce que ça vaut le coup que j'ajoute un petit jeu à côté, par exemple Ni No Kuni, là je l'ai eu à moins de 40€ parce qu'il avait bien baissé du coup durant décembre, et je surveillais le prix depuis un moment, je l'avais baissé petit à petit, tout ça. Donc, tu gagnes pas grand chose, mais ça te permet un petit peu de voir. Et après, le marché de l'occasion aussi, hein, tout bêtement, ça commence à se démocratiser tout le monde connaît Le Bon Coin, tout ça. Vinted, c'est pas mal, en fait, finalement. On trouve des trucs intéressants sur Vinted, on pense que c'est beaucoup fringue et tout, mais il y a un côté pratique à Vinted, avec aussi le côté. À côté de chez soi, tout ça, puis tu peux te faire de la thune plus facilement, donc regardez un petit peu partout sur les sites de revente aussi globalement. On parle d'achat aussi, mais il y a le fait qu'on est tous les deux aussi journalistes finalement, et qu'on teste des jeux et qu'on reçoit des review codes. Est-ce que tu as beaucoup de review codes?
J'ai beaucoup de codes de test, oui, parce que
exactement.
À notre époque, on ne nous envoie plus, ou en tout cas plus qu'à aux grandes rédactions des boîtes de jeux. Hein. Toutes les autres, et quand je dis grandes rédactions, je parle de grands titres nationaux qui de temps en temps reçoivent des jeux physiques ou des éditions collector. La plupart du temps, c'est du code de test pur et simple que vous mettez dans l'eShop, dans le Marketplace Microsoft, dans le PlayStation Store, et qui vous télécharge le jeu. En ce qui me concerne, ça ne concerne que quelques jeux par année. Il faut savoir à ce stade que, pour des raisons de temps notamment, mais aussi pour des raisons que j'aime bien posséder les jeux que je couvre à ce stade, et y a un certain niveau de recoupement de ce que je couvre d'une part et de ce que j'aime d'autre part, je me retrouve avec très peu de codes de test et à très peu en demander. Donc c'est un peu une conjonction de différents facteurs, hein, l'intérêt, le temps, etc. Mais au final, oui, ça représente 2-3 jeux par année. D'ailleurs, quand je parle d'un jeu ici dont j'ai reçu le code par un éditeur, par un développeur, je le dis. Je préfère être transparent sur la question. La dernière fois que j'en ai demandé un, et je pense la prochaine fois que j'en redemanderai un, c'est pour What the Golf sur Switch, ce que j'attends avec impatience sa sortie. J'attends de pouvoir en parler ici. Il était déjà sorti sur Apple Arcade, mais maintenant il était repoussé un petit peu en 2020. Et c'est pas forcément un jeu sur lequel j'ai envie de dépenser des milliers et des cents, mais c'est un jeu sur lequel je suis assez curieux de voir si finalement il dépasse son gimmick de départ. Donc gros point d'interrogation dessus, et j'espère que Tribound, qui développe le jeu, voudra bien ouvrir ses portes de ce côté-là. De ton côté, j'imagine que c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus que 2 ou 3 jeux par année, non ?
Pas beaucoup plus, hein. Comme je le disais, j'en teste on va dire une dizaine pour Gamekult. Et encore, je crois que je vise large, j'ai pas compté le nombre de tests que j'ai fait l'année dernière, mais ouais, c'est pas énormissime. Donc je crois qu'on est même plutôt à 6 jeux, hein, je crois, au final. Je reçois beaucoup de propositions de jeux indés par mail, beaucoup trop, parce qu'il y a beaucoup trop de jeux qui sortent, et du coup je refuse gentiment du coup les... Enfin, je refuse, je réponds pas. Du coup, je prends pas le code. Je le demande pas parce que, enfin, j'ai pas le temps de tester ces jeux-là. Et globalement, ça m'intéresse peu. Donc, voilà, peu finalement de review code par rapport à quelqu'un qui bosse en rédaction H24 au final. Donc voilà. Écoute, maintenant c'est l'heure de passer aux questions. On a fait le tour un petit peu des questions. Notre ami Hook, que je salue, que je connais bien, pour les achats des maths en ligne, principalement sur PC qui ont une ligne de vie longue, n'êtes-vous pas gêné que les comptes ne puissent pas aller aux héritiers? Il précise, oui, je cherche des questions, donc il est un petit peu inventif. Qu'est-ce que tu penses de ça?
D'un point de vue philosophique, oui, c'est un problème. Et même d'un point de vue du droit des consommateurs, je pense que c'est un souci qu'on puisse échanger notre argent contre des biens et services qui ensuite ne sont pas transmissibles aux héritiers. Reste que c'est pas facilement dissociable pour moi du fait que je suis pas particulièrement focus sur le fait d'avoir des enfants en ce qui me concerne spécifiquement. Et donc, je dois répondre qu'un peu intuitivement et un peu égoïstement, je m'en fiche un peu.
Écoute, tu me rassures parce que c'est à peu près la réponse que j'allais donner vu que j'ai pas de gosse et que je compte pas en avoir parce que c'est beaucoup trop chiant.
Principe, en fait, je suis un peu embêté entre oui, théoriquement, oui, c'est un problème, mais là, moi, c'est pas un truc qui... Je suis désolé, hein, je suis pas le public pour ça. Je sais, et c'est important qu'on en parle aujourd'hui, qu'on doit également parler pour des cas de figure qui nous dépassent, nous, en tant qu'individus. Mais j'étais, je vais pas dire surpris, mais en tout cas étonné en bien que la question soit soulevée, parce que clairement elle est pas venue de moi. Donc merci beaucoup d'avoir posé la question. Ça transitionne assez bien avec la question suivante, je trouve, d'ailleurs.
Ouais, pour finir quand même sur la question de Hukuk, c'est je prête déjà pas mes DVD, je prête pas mes jeux, je prête pas mon compte Steam, je prête rien. À la rigueur, je passe mon compte Netflix à ma meilleure amie, mais voilà, donc clairement...
T'es un peu dans le délire, enterrez-moi avec mon compte Steam, hein.
Oui, mais après moi le déluge, moi c'est ma philosophie, tu vois, je suis comme ça moi maintenant. Golden Vlad, ce nom me dit quelque chose. Mm-hmm. N'aurait-on pas une question de Golden Vlad dans l'épisode précédent? Peut-être, on ne sait pas trop. Le dématérialisé a pris beaucoup de place dans les habitudes de consommation des gamers. Ça ne remplit cela ne remplit plus, pardon, leurs étagères déjà trop pleines, certes, mais ils ne peuvent pas les vider non plus pour financer le nouveau jeu hype du moment à 50€, voire plus. Donc on parle effectivement de la problématique de la revente finalement d'un jeu dématérialisé.
Oui.
Qu'en est-il du bras de fer Steam UFC que choisir concernant la revente de jeux démat? Quel est votre point de vue sur la question, mon cher Yann?
Mais justement, tu me vois, merci mon cher Lou, je vous remercie.
Ben, je vous en prie.
On transitionne très bien à partir de la question de Hook Hook, parce qu'encore une fois, on est sur la question de la valeur d'un titre, d'un bien dématérialisé. Ou d'un service d'ailleurs, quand on parle des jeux serviciels, de leur mise à jour, des contenus, des objets dématérialisés qui font partie de ces jeux-là et qui sont gagnés parfois à la sueur du front des joueurs qui appliquent des heures de gameplay pour obtenir du loot plus ou moins intéressant. Je trouve que c'est une vraie question, surtout à l'heure où on peut échanger des objets in-game contre de l'argent sonnant et trébuchant. On peut penser à l'hôtel des ventes de Diablo 3, on peut penser, même s'il était ensuite changé, on peut penser évidemment aux échanges d'items CSGO, on peut penser enfin à plein de petites économies autour du jeu vidéo qui se sont créées et qui gardent une valeur monétaire très très claire, très très distincte, pas floue du tout. D'autant que ce sont des vraies choses qui ont coûté de l'argent au moment où les gens les ont acquis. Je pense qu'il y a, il y a à la fois un petit peu de bonne foi à donner à Steam et aux possesseurs de plateformes, dans le sens où effectivement c'est un bien dématérialisé et entre, enfin, on peut pousser une logique très très loin en disant finalement n'importe qui peut copier, reproduire et au final redistribuer quelque chose qu'il a acheté. Comment est-ce qu'on peut faire un marché de soldes pour un bien dématérialisé, donc qui par défaut est réplicable et n'a pas d'existence tangible dans notre monde? Ça, c'est une vraie question qui est complexe à régler et qui peut mener potentiellement à des dévoiements si le législateur fait n'importe quoi avec cette question-là. Ceci dit, je ne m'attendrais pas à ce que le législateur prenne des décisions anti-business. Le législateur en France et ailleurs a plutôt l'habitude de prendre des décisions très libérales au sens économique du terme. Donc je me fais pas de soucis là-dessus pour eux, juste qu'effectivement il y a des possibilités de dévoiement. Maintenant, c'est vrai que le consommateur a droit à mieux que la situation actuelle. La façon dont les plateformes se débarrassent des droits aux consommateurs en les faisant signer des contrats absolument interminables est pas quelque chose de désirable, est pas une situation appréciable aujourd'hui. On se moque toujours des termes, des contrats de licence, bah notamment celui d'iTunes. C'est vraiment l'exemple éculé, mais on peut aussi penser, quand vous lancez un système d'exploitation pour la première fois, que ce soit Windows ou macOS, on est confronté à ces termes-là qui nous déshabillent de certains de nos droits. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire d'important. Le jugement qui a été rendu sur Steam UFC que choisir, on va pas y revenir dans le détail parce que de toute façon, il fait l'objet d'un appel. On ne sait pas encore quelle est la situation vis-à-vis de cette procédure d'appel, s'il est rejeté ou pas, s'il est pris en compte, si Steam arrive à renverser la vapeur sur la décision qui a été prise. Mais c'est une vraie question. Et clairement, quand quelque chose de définitif sera ressorti de cette procédure-là, quand ils sont arrivés au bout de l'appel et au bout de toutes les dispositions possibles et imaginables, là, ce sera l'occasion notamment, je pense, de faire un épisode du podcast sur le sujet et de faire intervenir des gens encore mieux qualifiés que nous pour parler du droit et pour voir dans quelle situation ça met les plateformes, ne serait-ce qu'en France, mais de manière plus large en Europe et dans le monde. Large réponse, je suis désolé, Lou.
Ah non, je t'en prie, écoute, j'ai pas...
Est-ce que tu diverges, Verge?
Mais non, mais justement, moi, je suis content que tu aies répondu longtemps parce que j'ai pas grand chose à dire. Je suis pas concerné par l'objectif de la revente. La question qui sous-tend, c'est quelle valeur a un bien dématérialisé? Perso, je t'avoue que j'ai pas d'avis sur la question, en fait.
Il peut pas se dégrader. Donc, techniquement, il ne peut pas avoir une valeur moindre que sa valeur du marché.
Ah oui, tu l'utilises du coup, donc tu dois quand même payer son droit d'utilisation quelque part. Sinon, ben il y a une personne qui achète un jeu, puis elle passe son temps à le revendre à une personne qui le vendra à une autre personne. Enfin, oui. Il peut très bien avoir qu'un seul acheteur du coup. Ça peut marcher aussi pour une cartouche, tu me diras. Mais enfin, bref,
un marché d'occasion de biens dématérialisés ne peut fonctionner que si par exemple on met sur ce marché d'occasion des biens dématérialisés qui seraient qualifiés de vintage ou qui seraient qualifiés, je sais pas, d'obsolètes. Là, il serait possible de les revendre à un prix plus bas parce que, mettons, il n'est plus fonctionnel qu'avec Windows 7 et inférieur. Il n'est plus compatible avec Windows 10, il est plus compatible avec la dernière version du système d'exploitation. Là, il y aurait peut-être un critère de cette manière-là qui permettrait de dire, à partir d'un niveau d'obsolescence, vous pouvez revendre votre titre dématérialisé, peut-être.
Ouais, mais par rapport à la rémunération des créateurs et à l'utilisation, finalement, parce que c'est ça que tu payes au final, c'est l'utilisation
d'un
jeu.
C'est vrai. Pas que ça, tu payes aussi une marge confortable de 10-30% suivant le...
Enfin, je veux dire, le principe de ce que tu payes, c'est ça en gros, c'est l'utilisation de cette propriété intellectuelle au final, parce que c'est un bien dématérialisé.
Oui.
Donc c'est compliqué cette notion de possession du jeu. C'est pour ça que typiquement un service comme Netflix, c'est plus simple. Donc enfin bref, moi j'ai pas de réponse. Ça me j'avoue que ça me concerne pas en plus, donc je me battrai pas sur la question, mais faites valoir vos droits si vous le voulez. Bigaston, déjà un petit peu répondu, enfin même répondu en grande partie. Est-ce que pour vous acheter un jeu en boîte a encore de l'importance?
Oui.
Oui, c'est très clair. Et est-ce que vous achetez vos jeux sur plusieurs sites ou restez uniquement chez un seul? Moi de mon côté, comme j'ai dit, ça va être beaucoup Amazon et Steam. Parfois GOG. Et toi, du coup, quand c'est
aucun
sur,
site LOL, donc c'est directement en magasin.
Aucun site LOL, voilà. JBC, que pensez-vous des distributeurs tels que Limited Run qui matérialisent certains jeux généralement réservés à la distribution numérique? Êtes-vous client de la démarche ou au contraire complètement indifférent?
J'apprécie la démarche, encore une fois. Je différencierais ça d'ailleurs de certains autres jeux dont je parlais en disant tel jeu sort après son succès en dématérialisé, parce que là on parle de cas de figure. Limited Run, généralement ils mettent des goodies avec la boîte, ce qui est pas nécessairement le cas d'autres jeux dont je parlais. Donc je la vois d'un bon œil, cette initiative-là. J'ai jamais craqué pour ce genre de choses, y compris pour des jeux que j'aime beaucoup. Je sais par exemple qu'il y avait une édition limitée d'Undertale sur Switch, sur PS4, etc., avec un CD, avec des trucs, des machins. Et j'y suis jamais allé, le plus souvent parce que la distribution est extrêmement limitée, slash assez cher quand c'est de l'importation des États-Unis vers l'Europe notamment. Donc je dirais qu'il y a ce critère-là très clairement qui chez moi limite ça et la flemme, et pas nécessairement l'envie de payer deux fois pour le même jeu. Est-ce que t'as déjà craqué pour ce genre de choses, Lou?
Point du tout, mais j'aime bien l'idée. Après, moi, je suis tout ce qui est goodies, ça m'intéresse pas déjà. Mais par contre, le fait de proposer, la boîte, moi, j'aime beaucoup j'aime la boîte. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, ça me plaît. Donc voilà, mais j'ai jamais craqué pour autant, parce que ça justement ça va pas être des jeux qui vont forcément beaucoup m'intéresser. Je joue quand même beaucoup moins aux jeux indés qu'avant, globalement. Puis là, si je me trompe pas, je connais peu le catalogue de Limited Run, mais je crois que c'est beaucoup de jeux indés en fait au final, ce qui paraît logique. Je me sens moins moins concerné, voilà. C'est à dire que j'ai déjà tellement peu de temps pour ce qui sort en jeu que voilà, je galère trop finalement.
Alors effectivement, c'est beaucoup de, il y a de l'indé, il y a du titre japonais ou japonisant, il y a du Mighty Switch Force, donc WayForward.
Indé import, quoi, en gros. Donc
notamment, il y a Night Trap, la version physique de Night Trap sur PS4, c'est Limited Run qu'il a, donc ils sont un petit peu dans tous les bons délires. Ils ont bossé également sur Jack X, ce qui est assez surréaliste. Donc ils font un petit peu de tout en vrai. Ils font la version physique de Blasphemous également, une adaptation du concept Polybius qui est à la base d'un creepypasta rumeur. Metal Slug 3 aussi. Enfin, il y a un petit peu de tout. River City Girls. Ils sont un petit peu dans tous les marchés. Thimbleweed Park sur Switch, Slime Sun également sur Switch, Flint Hook, très bon Flint Hook, et encore Night Trap dans plein d'éditions différentes. Thumper aussi qui déchire là, qui est par contre un indépendant. Donc pour répondre à ta question, un petit peu de tout chez Limited Run, voilà.
Bah très bien. Eh bien, on a fait le tour du coup des questions. N'oubliez pas au passage, pour nous poser vos questions, suivez-nous sur Twitter @lacartouchebp. On y publie en avance la liste de nos prochains sujets afin que vous puissiez nous faire parler de ce qui vous intéresse. La cartouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, abonnez-vous à ce podcast pour ne manquer aucun épisode de La Cartouche, bien sûr. Merci beaucoup, mon cher Yann.
Mais de rien, c'est un plaisir.
N'oubliez pas de nous soutenir, bien sûr, en parlant de La Cartouche autour de vous. À très vite. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ah, voilà. Est-ce que tu veux une petite pause avant le rétro?
J'aimerais bien faire une pause pour prendre du sirop pour la toux parce qu'il est vraiment très très bon et j'en ai plus besoin. Mais j'ai plus de sirop pour la toux.
Ah merde.
Donc voilà. Donc je boude un petit peu.
Ah, non. Bah, tu veux prendre tout de suite du coup?
Non, du coup j'ai pas besoin de pause parce que je crois que ce sirop m'a rendu accro, je te jure, il était vraiment trop bon.
Ah certains, soit ils sont dégueulasses, soit ils sont...
Ah non, mais franchement, c'était un plaisir d'en prendre trois fois par jour. Là, du coup. Je crois que je vais aller en racheter rien que pour dire, genre, quoi, la gorge.